sur les offices, c'est-à-dire les charges de Christ. En septembre, je prêcherai sur l'Église, sur les conseils aussi de David Alonso, dans le cadre de cette transition que nous vivons, pour réécrire la vision. Vous savez qu'il y a trois offices, ce qu'on appelle office, c'est-à-dire charge pour constituer un peuple, le peuple de Dieu, ces trois offices, l'office de prophète, l'office de roi et l'office de sacrificateur. Quand Dieu a établi le peuple d'Israël avec Moïse, eh bien, il y a eu ces trois offices qui ont été créés formellement pour, un peu comme dans la Constitution, vous savez, toute nation a une constitution. Notre constitution républicaine remonte à 1789, 1792, la dernière. Et puis maintenant, nous sommes en 6e République parce qu'elle a été révisée. C'est ce qui fait de nous un peuple, une nation française. Et c'est là qu'il établit tous les droits et les devoirs de chaque citoyen. Donc le citoyen peut réclamer par rapport à cela, à cette constitution, et les juges, voilà. Donc c'est ça qui permet à un peuple de vivre, d'exister. Or Dieu a établi un peuple, le peuple d'Israël, sur ces trois offices. Moïse était le prophète, bien sûr, le prophète. Il était aussi le leader, donc il cumulait à ce moment-là un petit peu les deux. Prophète et leader, hein, bien qu'après il ait passé la main à Josué, voilà, on parlait de Joshua, Josué, et ensuite après bien sûr le leader qui est le leader prophétique du Messie, c'est David, le roi d'Israël. Mais au temps de David, il y avait un sacrificateur. C'était qui le sacrificateur? Alors avant Aaron? Non, oui. Non, c'était Tzadok. Tzadok. En fait, il y en a eu deux, Abiathar, Tzadok, et c'est Tzadok qui a repris le relais. Donc, c'était au temps de Moïse qu'il y avait Aaron. Il y a eu bien séparation de ces offices. Et puis, où est-ce que j'en suis là? Il y avait des prophètes. Alors, les prophètes, c'était Samuel, hein, qui était prophète au temps de David. Ces trois offices n'ont jamais été, c'est interdit, occupés par une seule personne. Et les temps étant accomplis en Jésus-Christ qui est venu, c'est lui qui est venu pour s'installer dans ces trois offices en même temps. Donc Jésus, il est prophète, il est roi et il est sacrificateur. C'est la représentation de ces trois cercles, hein, qui sont entrecoupés, puisque en fait on peut distinguer maintenant en Christ, hein, avant ils étaient séparés, mais maintenant ils étaient séparés, hein, parce que le peuple d'Israël, eh bien, c'est un peuple qui a été conduit par des hommes faillibles, alors que l'Église est conduite par Jésus-Christ, qui est infaillible, qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre divin. Et donc, lui peut occuper ces trois postes sans problème. Donc, il est, alors en haut, en général, on met la sacrificature, hein, sacrificateur, on l'a vu au mois de juillet. Il est roi et il est prophète, et on va voir aujourd'hui la notion prophétique. En quoi il est prophète, comment il est prophète et comment cet office prophétique de Christ se manifeste. On va lire dans Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Luc 4. Vous savez, c'est le passage où Jésus retourne en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il entre dans une synagogue à Nazareth et il lit ce passage d'Ésaïe, donc, qui était prophétique. Et il va incarner, en fait, le personnage dont parle Ésaïe. Et voilà ce que Jésus lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, il roula le livre. Là, je ne peux pas le rouler parce qu'à l'époque, il y avait un rouleau. Il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Alors, les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu pour accomplir les Écritures. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont focalisées sur le Messie qui allait venir, sur l'oint qui allait venir. Dans ce récit de la prédication à Nazareth, Jésus s'identifie au prophète envoyé par le Seigneur. Si donc de cette prédication jusqu'à la fin, le dernier entretien que Jésus a eu avec les pèlerins d'Emmaüs, vous vous rappelez ces pèlerins qui étaient désespérés après la mort de Jésus, qui ne savaient pas qu'il était ressuscité, et en fait Jésus les rencontre sur le chemin qui les mène de Jérusalem à Emmaüs. Et il leur parle en chemin et il leur ouvre les yeux sur l'Écriture. Eh bien, Jésus s'apparente au prophète parce qu'il est reconnu prophète. Il a toujours été reconnu prophète. Même dans l'islam, ils reconnaissent comme prophète. Donc, le fait qu'il soit prophète ne faisait aucun problème au niveau Jésus. Vous voyez, Jésus, si on prend l'aspect prophétique, si on le met là, le prophète, il a toujours été reconnu, et il est reconnu encore aujourd'hui comme prophète. Comme roi, il a été rejeté par Israël, ce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il voulait un roi qui les délivre des Romains. Il voulait un roi politique, un roi qui leur redonne Israël great again, si vous voulez, qui leur redonne le pouvoir sur les nations. Voilà. Ouais, c'est vieux, hein, ça revient tout le temps. Donc ça a été rejeté. Et la sacrificature aussi n'a pas été reconnue par Israël. Mais c'est la croix. C'est à la croix que Jésus a été sacrifié. C'est l'agneau immolé. Et qui est dans le regard de la foi, de celui qui l'accepte par la foi. Donc l'aspect prophétique, quelque part, c'est simple et c'est le plus compliqué à comprendre. J'espère ne pas vous lâcher en cours de route dans mes explications, parce que c'est le plus difficile et le plus grand mystère qui n'existe jamais et qu'on pourra certainement jamais découvrir. Je vous l'expliquerai à la fin. Un grand prophète s'est levé à Nazareth en le voyant s'approprier ces paroles d'Ésaïe, puisque c'est des paroles d'Ésaïe qu'il lit à partir de son rouleau. Eh bien, tous ceux qui le regardent s'étonnent du message de grâce qui sort de sa bouche. Et Jésus reconnaît qu'aucun prophète n'a bien été accueilli dans sa patrie. Jésus a été rejeté. Des siens, on disait, bah oui, mais c'est le fils du charpentier. Voilà, c'est quoi? Il se prend pour qui? Même ses frères et sœurs. Ont essayé de l'arrêter à un moment donné, même sa mère. Et c'est là qu'il a dit qu'ils sont ma mère et mes frères et sœurs. Il a dû même eux-mêmes les mettre devant la réalité de qui il est. Anaïm, alors qu'il vient de ressusciter le fils d'une veuve, la foule crie « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Lorsqu'il emprunte la route qui le conduira à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, Jésus prend sur lui cette déclaration et cette destinée dramatique. Il n'est pas possible qu'un prophète périssent hors de Jérusalem. C'est dans Luc 13, versets 33 et 34. Jésus, il sait que les prophètes sont maltraités de tout temps. Il sait que les prophètes qui parlent de la part de Dieu, eh bien, sont des empêcheurs de tourner en rond, si vous voulez. Et on voit régulièrement dans l'Ancien Testament, et ça c'est très instructif, comment les prophètes, en général, ils prophétisent selon les désirs des rois. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, l'aspect prophétique, ça marche beaucoup plus si ça rentre dans la tendance de nos désirs. Ah, on aime bien cette prophétie, vous voyez. Mais les prophéties qui mettent en face de nos responsabilités, c'est beaucoup plus dur à accepter et en général, à la fin, sont rejetées. Regardez Jérémie. Jérémie, le grand prophète, qui a mis en garde Judas, puisqu'Israël a été déporté à cause de l'idolâtrie qui existait dans son sein. Et Judas a suivi quelque temps après. Il les a prévenus. Il a dit, vous allez être déportés à Babylone. Non, non, ça ne nous arrivera pas, ça n'arrivera jamais, etc. Et ils l'ont tué quand ils sont allés en Égypte. Non, mais quand ils l'ont emmené avec eux en Égypte pour le faire taire parce que ça les dérangeait. Quand ça nous dérange, voyez-vous, eh bien, on fait taire les prophètes. Et quand ça nous arrange, on les élève. Donc faisons très attention sur ce qui nous arrange ou sur ce qui nous dérange. Jésus savait que les vrais prophètes étaient tués et se terminaient de manière très mal. Et il l'a dit à ses disciples en allant sur Jérusalem. Enfin, les disciples d'Emmaüs, donc je vais un peu vite sur l'aspect prophétique qui est reconnu par les gens de son temps, ils l'affirment. Prenons tout à la fin dans Luc 24, 19. Luc 24, 19. Je lis 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ?» Attendez, est-ce que c'est bien la bonne verset ? Oui, alors, verset 19. « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. » Mais vous, Israël, reconnaissez que Jésus était non seulement un prophète, mais un prophète puissant en œuvre et en parole. Il disait, cet homme, non seulement il a des paroles que nos chefs, nos principaux leaders n'ont pas, mais en plus, il fait des miracles, il agit sur les tempêtes, il commande aux éléments déchaînés de la nature de se calmer. Et donc, il était reconnu dans ce sens comme un prophète d'une grande envergure. Et bien sûr, leur déception était grande quand Jésus est mort. Quand Jésus, comme les autres prophètes, ont terminé sur le bois. On peut comprendre la déception grandissante d'Israël, de ce peuple qui mettait sa confiance dans ce Messie qu'il attendait, qui était acclamé dans de grands moments de liesse et qui, petit à petit, les a déçus parce que ils attendaient effectivement le Messie conquérant, alors que là, c'était le Messie souffrant qui était venu. Faisons-nous aussi attention à ce que nous attendons. Est-ce que nous attendons dans notre vie des grandes bénédictions ? Le Seigneur donne des bénédictions. Mais si nous les attendons, nous pouvons être touchés par des mirages que l'ennemi va nous envoyer comme des bénédictions. Mais si nous attendons à des souffrances parce que dans le temps présent, il est dit que les chrétiens souffriront, le juste souffrira, parce que le monde n'accepte pas Jésus, parce que le monde, naturellement, ne peut pas comprendre Jésus. Donc c'est normal que vous ayez des difficultés, que c'est normal que vous ayez de l'incompréhension, c'est normal que vous ayez des personnes qui ne soient pas d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, eh bien, regardez, bien sûr c'est extrême, mais Étienne, quand il a été carrément persécuté, eh bien, le ciel s'est ouvert et il voyait Jésus qui était à la droite de Dieu et qui l'attendait. Je me rappelle quand je me suis converti, j'étais, vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, il y a des bizutages, les arts et métiers sont bien connus là-dessus. Eh bien, c'est là que je me suis converti. Eh bien, il y en a qui se moquaient de moi et tout ça, devant tout le monde. Et moi, j'étais en relation avec Jésus. Vous voyez, c'était extraordinaire, quoi. Vous voyez, je vivais une autre dimension que les gens ne voyaient pas. Et que moi je vivais dans cette dimension spirituelle. Et quand on est dans des périodes de grande persécution, eh bien, on a des expériences de relations beaucoup plus grandes qui préfigurent un peu l'expérience finale que nous aurons avec le Seigneur. Aujourd'hui, le salut est arrivé. Jésus a amené le salut. Ce grand prophète, qui est le prophète des prophètes, qui est la lignée de ces prophètes, eh bien, est venu nous apporter le salut. Il est difficile de ne voir en Jésus qu'un prophète, parce qu'il fut le prophète des derniers temps. Le prophète qui parle au nom de Dieu, il proclame un message de salut et de conversion qui doit d'abord accueillir dans sa propre chair, dans ses propres faiblesses, qui doit être accueilli. Et c'est le cas de Jean-Baptiste, dont Luc nous parle, qu'il dit que c'est le plus grand des prophètes. Dans Luc 7, verset 26, on parle de Jean-Baptiste, donc qui précède la venue de Jésus. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, s'agissant de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, déjà, qui précédait Jésus, était reconnu comme prophète, mais plus qu'un prophète. Donc, déjà, et lui-même disait, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, en parlant de Jésus. Donc vous voyez, on voit bien la gradation de la notion prophétique. Et dans Luc 16, 16, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle, et chacun use de violence pour y entrer. C'est un verset qui fait couler beaucoup d'encre. Déjà, ce qui est important dans ce verset, c'est de voir qu'il est question qu'on est à la fin d'un temps, hein, la loi et les prophètes. Vous voyez, la loi et les prophètes, c'est que la loi, c'est ce que Dieu a révélé à Moïse pour son peuple, les 10 commandements, ensuite après le Deutéronome qui est voilà, le détail de la loi, qui est la manière dont Dieu veut que le peuple se conduise, et ensuite les prophètes qui articulent la loi, ils ne vont pas contre la loi, mais ils apportent le réma de Dieu, c'est-à-dire directement de la part de Dieu, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Donc ils apportaient la parole vivante de Dieu. Donc vous voyez, il y a la loi, il y a la parole, et il y a l'expression de la parole. C'est pour ça qu'un temps comme celui-là est important, et j'en suis conscient, que je vous transmets non pas une parole qui est juste une parole articulée sur un texte, mais que je dois vous apporter la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vous parle. Toute parole, d'ailleurs, est toujours orale. Alors, Jésus, il a parlé. Mais il n'y avait pas un journaliste qui était là pour prendre ses paroles, pour les mettre. Ça a été ensuite, après, retraduit par les apôtres. Mais même là, ce n'est pas les paroles, on n'a pas l'enregistrement de Jésus. Il n'y a pas une cassette qui a enregistré la voix de Jésus. Et puis même, ce serait qu'un enregistrement. Donc il y a bien la parole qui est le contenu de ce que Dieu veut dire, mais il y a la vie de l'Esprit qui est derrière la parole. Amen. Et c'est ça qui doit être le contenu de l'Évangile. C'est ça qui doit être le contenu. Et c'est pour ça qu'un prédicateur a une responsabilité incroyable, incroyable. S'il dévie un tout petit peu, ça veut dire qu'il ne donne pas la parole de Dieu. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que je suis content du nombre de personnes qui suivent la théologie du royaume, parce que vous-même, vous pourrez même me reprendre plus facilement et me garder, m'aider à rester dans la ligne de la parole, parce que si un verset est détourné, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est un autre évangile. Voyez-vous ? L'évangile, la bonne nouvelle, n'est que l'évangile s'il est la parole que Jésus a prononcée. Vous me suivez ? Est-ce que je m'explique ? C'est très profond ce que je dis, parce que je l'ai réalisé cette semaine en particulier, que l'évangile ne peut être l'évangile. Alors, il y a un tas d'évangiles aujourd'hui. Hein. C'est les évangéliques, il y a une panoplie d'évangiles dans tous les sens. Hein. Vous n'avez qu'à lire, qu'à regarder les films qui sont très bien faits, en particulier American Gospel, et vous comprendrez ce que je veux dire. Et vous comprendrez tous les évangiles qui circulent aujourd'hui au sein des évangéliques, et qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui est le plus proche de ce que Jésus a annoncé. Vous me suivez ? De ce que Jésus a annoncé. Et ça, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de recul par rapport à ce qu'on pense, ce que je pense par rapport à ce que la parole veut dire. C'est le kérigme, hein, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Et c'est cette proclamation qui fait effet dans nos vies, et c'est uniquement elle. Alors, se termine avec Jésus, avec Jean-Baptiste, se termine la loi et les prophètes. Alors, ça veut dire quoi ? Jésus n'est plus prophète, puisque c'est terminé. Eh bien, c'est un nouveau type de prophète. On est dans un autre ordre. Alors, on rejoint la théologie du royaume, où il y a le siècle présent, le siècle à venir. Jésus fait partie du prophétisme du siècle à venir. Et nous sommes aujourd'hui dans ces deux siècles où Jésus est dans le siècle à venir. Et nous aussi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, dans ce siècle. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Luc 1, 35. Il n'est pas que prophète, il est aussi Fils de Dieu. Luc 1, 35 nous dit « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et c'est en tant que tel, en tant que Fils de Dieu, que Jésus interprète les Écritures. C'est pour ça que Jésus reprend les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, tous ceux qui enseignent Israël, en disant « Vous, vous dites, mais moi je dis. » Parce que cette parole qui était parfaitement écrite, voyez-vous, le légalisme ne protège absolument pas, au contraire, il dévie de la parole. Le légalisme, oui, il est écrit, tel verset, etc. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on a toujours cette tendance au légalisme. Eh bien, Jésus, il casse tout ça. Parce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, il connaît l'intention du verset et il connaît aussi toutes les ramifications de ces versets avec d'autres connaissances. Et là, il dit, oui, il est écrit, mais moi je vous dis. Donc l'interprétation de Jésus donne, et cette interprétation, nous l'avons dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que le Nouveau Testament, qui est le prophétisme dans le siècle à venir de Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, il est bien sûr d'un ordre supérieur que l'Ancien Testament, bien que dans l'Ancien Testament soit vrai, mais si on s'attache à l'Ancien Testament, la loi, faut que la loi s'est écrite, eh bien, on n'est pas du tout dans l'Évangile. On est dans l'Ancien Testament, pas dans l'Évangile. Les auditeurs de Jésus ne se trompent d'ailleurs pas. Ils voient bien que l'enseignement de Jésus est différent des scribes et que son autorité est unique. Les scribes n'avaient pas d'autorité ni sur les démons, parce qu'en plus, ils chassaient par Salomon. Alors, il y avait des exorcismes, il y avait tout plein de... Comme dans l'Église catholique, il y a des exorcismes, donc il y a des formules, il y a des prières, des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'autorité de Jésus qui disait « Maintenant, tu t'en vas, terminé. » Et puis, démons s'en allaient. Ou Jésus qui parlait à la tempête en disant « Maintenant, tu te calmes, c'est fini. On a assez joué comme ça. » Vous voyez, c'est l'autorité simple de l'expression de la parole qui donne autorité aux éléments. Et là, on retrouve vraiment le mandat de Genèse 1:26 que la nouvelle réforme apostolique met en avant. Mais c'est d'un autre ordre. C'est pas pour ce présent. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui. Ou alors, si quelqu'un prétend à cette capacité, il est dans l'orgueil le plus complet. Il n'y a que Jésus qui a reçu du Père d'incarner ce nouvel Adam. L'Adam qui ne pêche pas. L'Adam qui n'est plus sous le pouvoir du péché. Donc lui, il retrouve le mandat de pouvoir dominer sur toute chose. Parce que l'être humain a été créé au-dessus de toute la nature. Et ce mandat, Jésus l'a reçu parce qu'il ne pêche pas. Et donc lui peut prendre cette autorité. Et Genèse 1:26 s'applique bien à Jésus et à ceux qui vont régner avec lui, bien sûr. Mais pour nous, ce n'est pas le cas encore. Nous ne sommes pas dans ce mandat. Donc, il y a du vrai et du faux. Simplement, c'est une question de chronologie. On n'est pas dans le temps qui va bien. Par les miracles de Jésus et son enseignement en parabole, Jésus se différencie totalement des autres prophètes. Les autres prophètes, bien sûr, ils utilisaient des paraboles pour expliquer certaines choses. Mais Jésus, tout le temps, il utilise des paraboles pour que le plus simple puisse comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Il ne se contente pas simplement d'annoncer le salut, mais il instaure une réalité qui est déjà là. Jésus vient instaurer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu, le règne de Dieu est venu en Jésus. Au travers de sa personne et de son œuvre, il est venu. Nous aurions bien aimé qu'il reste, mais il est parti et il faut qu'on attende son retour pour l'instaurer définitivement. Lorsqu'il guérit, lorsqu'il remet les péchés, lorsqu'il ressuscite les morts, eh bien, il préfigure la victoire sur le mal. Voyez-vous, c'est une préfiguration. Quand il ressuscite Lazare, ben il préfigure notre résurrection. Mais il n'a pas ressuscité tout le monde. Simplement, il a modélisé un nouvel ordre du royaume qui allait venir et qui nous met dans l'espérance de ce qui va arriver. Il est le sauveur. Il est celui qui nous sauve de notre situation de péché. Et c'est ce que dans la nuit de Noël, l'ange avait annoncé au berger. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors là, je vais vous donner un peu la révélation de ce mystère prophétique où on passe de l'âge présent, ou jusqu'à la venue de Jésus, là c'est l'histoire, la venue de Jésus, eh bien ça c'est le temps de la loi et des prophètes. Là, c'est la venue de Jésus, qui est le prophète qui incarne la parole. Donc, il est plus que le prophète, puisque c'est le Logos qui incarne la parole. Eh bien, à partir de là, eh bien, Jésus, il règne ici, dans le prophétique, mais le prophétique qui est carrément la parole elle-même de Dieu qui nous parle. Et il a plusieurs titres. Alors, plusieurs titres, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ces titres-là. Alors, je cherche un stylo. Il est sauveur. Il est Messie. Alors, Messie, c'est le nom juif. Et Christ, c'est le même mot qui est grec et qui veut dire oint, oint du Saint-Esprit. Hein, voilà. Ensuite, après, il y a d'autres titres que Jésus, dont on parle de Jésus. Il est Seigneur. Qui est curios, alors là c'est du latin, non, grec, curios. Il est seigneur, donc celui qui règne. Ensuite, après, il y a le fils, il est fils de Dieu, on l'a vu, et il est fils de l'homme. Voilà. Donc on est sur l'aspect prophétique, là. En fait, il y a eu un changement d'ordre, d'ordre des âges, hein, donc de l'âge présent mauvais et de l'âge futur. Alors on peut aussi citer le fait, c'est important, qu'il est le deuxième Adam, selon l'enseignement de Paul. Dans les épîtres. Et voilà la difficulté, c'est qu'il est tout ça en même temps, mais tout ça en même temps n'est pas la même chose. Une petite précision, cependant, c'est que tout le monde attendait le Messie en Israël. Tout le monde attend le Messie. Et aujourd'hui, ils attendent le Messie. Okay. Jésus, quand il parle de lui, il ne parle jamais de Messie. Vous avez vu ça ? Pour ceux qui font l'AD, ils l'ont remarqué, hein, parce que c'est la base de la compréhension du royaume. Il s'appelle comment ? Jésus s'appelle comment ? Quand tu parles de lui-même ? Fils de l'homme. C'est quoi, fils de l'homme ? Pardon ? J'entends pas. Ah oui, alors là, tu es vraiment sur la piste, toi, tu es loin, c'est bien. En fait, c'est le tétramorphe, hein, voilà. On revient au tétramorphe, c'est en fait le tétramorphe. Mais bon, j'ai essayé de vous expliquer ça, on peut éventuellement revenir là-dessus, pour comprendre, parce que toute la Bible doit nous enseigner. En fait, c'est un être préexistant. Ça veut dire qu'il a toujours existé et sans être jamais créé. C'est pour ça que je disais, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Il ne faut pas chercher à le comprendre. Il faut l'accepter. Fils de l'homme, en fait, c'est l'équivalent de Messie. Sauf que Jésus se laisse appeler Messie, parce que les gens comprennent Messie, ils attendent le Messie. Mais en fait, lui, il dit toujours fils de l'homme. Je ne sais pas combien de fois c'est répété dans les évangiles, fils de l'homme. Parce que Jésus fait avec la compréhension des gens. Mais en fait, il y a une révélation derrière. Quand Jésus demande à ses disciples, avant de mourir, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dira, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc en fait, il lui donne les deux appellations, « Fils de l'homme », puisque c'est l'appellation que Jésus prend pour Messie. Alors pourquoi il prend Jésus par le Fils de l'homme et pas Messie. Parce que justement, c'est là la subtilité du royaume. Et que si vous n'étudiez pas ça, vous passez à côté la réalité du royaume. C'est qu'en fait, le Messie, dans l'esprit et l'attente des Juifs, c'était un Messie glorieux qu'ils attendaient. Bien que le Messie souffrant ait été annoncé, mais ce n'est pas ça qu'ils attendaient, puisqu'ils attendaient Israël great again. Il faut, voilà, faut que... Voilà, pardon. Voilà. Donc vous voyez, notre chair, elle attend des choses qui nous mettent dans la confusion par rapport à ce que l'esprit veut dire. Et c'est ça qui nous joue des tours aussi en tant que chrétiens, parce que nous ne sommes pas mieux que les Israélites. Ce qui fait que quand Pierre dit « Tu es le Messie », Jésus dit rien, parce que c'est vrai, il est Messie. Mais Jésus dit « Fils de l'homme », parce qu'en fait, il y a deux temps de Messie. Vous voyez ? Il y a deux temps de Messie. Il y a le Messie souffrant et le Messie glorieux. C'est pour amener une précision, même si les gens de l'époque n'ont pas compris. En fait, il est là dans l'enseignement de l'Évangile. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Si vous prenez l'histoire ici, là, c'est le temps de la loi et des prophètes qui annoncent le Messie. Mais en fait, ils annoncent un Messie qui va venir ici et qui va revenir ici. Mais ce n'était pas évident dans l'Ancien Testament de comprendre ça. Aujourd'hui encore, je vous parlais du millénium dimanche dernier, il y en a qui ne comprennent toujours pas, les chrétiens, que le millénium, c'est encore une autre difficulté à comprendre. Donc, comme ils attendaient le Messie ici et qu'il n'était pas celui qu'ils attendaient là, qui était souffrant et que là était glorieux, ben ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu, puis ils l'ont crucifié. Donc faisons très attention sur notre compréhension du royaume. Voilà. Dieu nous prend à notre propre piège. C'est-à-dire, si notre cœur est ouvert, nous voyons les choses. Si notre cœur est fermé dans le sens où nous attendons, nous préétablissons une attente, nous ne voyons pas. Au temps de Jésus, il y en a qui l'ont reconnu. Regardez quand celui qu'il a reçu dans le temple, Siméon. Ben Simon, il attendait le Messie. Et quand il a vu l'enfant Jésus, il a dit, ça y est, il est arrivé. Ses yeux sont ouverts. Et bien d'autres, et Marie, etc. Vous voyez. Quand votre cœur attend, non pas une attente préétablie, mais la vraie attente de Jésus et du royaume de Dieu, eh bien, vous voyez les choses quand elles arrivent. Amen. Et les mystères, tous les mystères dans la Bible, sont des secrets révélés dans l'histoire. C'est-à-dire, ils ne sont pas mystérieux, ils sont simplement révélés à ceux qui l'aiment. Si nous l'aimons, eh bien, soyons patients. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter sur l'histoire, il va arriver ceci, il va arriver cela. De toute façon, Dieu est en contrôle, c'est lui qui est souverain. Donc il va faire dérouler l'histoire. Simplement vivons ce que nous avons à vivre dans la fidélité à la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui s'occupe de l'histoire. Donc ici, le Messie, en fait, il a deux temps. Or, le Fils de l'homme, c'est pas simplement ici qui va venir et là qui va venir. Il est préexistant de toute éternité, le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que Jésus prend cette appellation, le Fils de l'homme. Et en fait, c'est le tétramorphe. C'est ce que Daniel va voir. Tétramorphe, c'est cet être qui est sous le trône de Dieu et qui glorifie Dieu. En fait, quand vous regardez la définition même du but de l'être humain, quel est ton but ? Quel est ton but, Rémi, sur la terre ? Quel est ton but ? Est-ce que tu connais ton but d'être humain ? Vous voyez, parfois, on crache un peu sur les traditions. Les traditions ont quelque chose de bon quand elles sont des bonnes traditions, c'est qu'elles résument des choses, tout simplement. Et dans le catéchisme protestant, le catéchisme catholique, il est dit que le but de l'homme, c'est d'avoir une communion avec Dieu et de le glorifier pour toujours. C'est pas compliqué. Est-ce que ton but, est-ce que tu le connais ? C'est d'avoir une communion avec Dieu, parce que Dieu a créé l'être humain pour avoir une communion avec lui, et que l'homme le glorifie pour toujours. Et ça, c'est la boucle d'amour entre Dieu et l'homme. Or, cette boucle a été rompue avec le premier Adam. Il a entraîné, nous a entraîné dans la chute. Et donc, un sauveur a dû venir. Et ce sauveur qui est Jésus, c'est le Fils de l'homme, qui de toute éternité existait, et qui a vécu la véritable identité de l'Adam, qui était prévue de toute éternité, c'est d'être en communion avec Dieu, avec le Père. Jésus était en communion avec le Père et le glorifie pour toujours dans l'éternité. C'est ça que Daniel a vu et qu'on voit dans l'Apocalypse, dans cette figure du tétramorphe. Et c'est le deuxième Adam. Donc il y a le Fils de l'homme, pareil que le Messie, sauf que c'est une précision chronologique dans le temps de la manière dont le Messie va instaurer. Seigneur, c'est le Kurios, ça c'est le Sauveur qui nous sauve, et le Fils de Dieu. Donc Jésus a plusieurs casquettes, si vous voulez, et c'est ça qui est incroyable à comprendre. On ne peut pas le comprendre. Que Jésus est Fils de Dieu, il est Fils de l'homme. Il est Adam, il est comme nous. C'est pour ça que c'est extraordinaire quand on comprend le mystère de notre identité. Qui nous sommes ? Nous sommes un être qui a été créé par Dieu pour lui rendre gloire, pour sa gloire. Et quand on vit dans ces dimensions-là, on est tout le temps dans la reconnaissance de la gloire de Dieu. Il y a des époques où les choses étaient beaucoup plus évidentes qu'aujourd'hui. Jean-Sébastien Bach, dans toutes ses partitions, il est reconnu par les inconvertis comme le plus grand des musiciens. Il mettait toujours « Soli Deo Gloria », « À Dieu seul soit la gloire ». La gloire de Dieu, rendre à Dieu la gloire. Voyez-vous, ça c'est cette dimension de l'amour pour Dieu. Et Jésus a donné la gloire à son Père, et le Père lui a donné l'autorité. Le Père l'a utilisé pour sauver l'humanité. C'est un amour qui nous dépasse, mais qui nous donne vraiment cette dimension de l'éternité qui est absolument incroyable. Alors, c'est des paradoxes, une fois de plus, on est dans le paradoxe, où d'un côté, Jésus est Fils de Dieu et en même temps, Fils de l'homme. C'est un mystère révélé à la fin des temps pour ceux qui l'aiment. Jésus est certes prophète, car il parle de la part de Dieu. Mais il est bien plus qu'un prophète, il est l'artisan de notre salut. Et il, pour accueillir aujourd'hui le salut, pour l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit dans Actes 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça veut dire quoi, ils prophétiseront ? Ils diront, voilà ce qui va arriver. C'est pas ça, prophétiser. C'est parler de la part. Et l'évangile, quand il est soumis à l'authenticité de ce que Jésus a dit, donc il faut remonter. C'est pour ça que aujourd'hui on a une véracité des paroles qui sont là, parce que de tout temps, ceux qui étaient fidèles à l'évangile, ils ont retraduit cela avec beaucoup de rigueur, parce qu'ils savaient que c'était la parole de Jésus qu'il ne fallait pas déformer. S'il y avait un iota qui changeait, c'était plus la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on se permet de déformer comme des élastiques des versets. C'est horrible. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de la parole. Et du coup, on entend d'autres voix, d'autres évangiles. Tous ceux qui ont reçu son esprit sont désormais des prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous êtes, je suis prophète. Dis-le à ton voisin, tu es prophète. Voyez-vous, dans la nouvelle dispensation de l'Église, par l'Israël, les prophètes ont annoncé la venue du prophète qui incarne la parole, le Logos. Et tout l'évangile de Jean, c'est une recréation, c'est une genèse de l'être humain, la nouvelle humanité. Et ici s'arrête la fin de la loi et des prophètes. Et ici, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous restons sur la terre avec nos infirmités, avec nos dispositions qui nous ramènent dans des problèmes qu'on connaît. Et en naissant de nouveau, nous sommes dans l'âge à venir. Et là, nous sommes des prophètes. Prophètes de Dieu, à condition que nous soyons fidèles à la parole. Prophètes de Dieu. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Soyons un peuple prophétique en annonçant l'évangile dans toutes sa dimension, dans le kérim, la proclamation et les œuvres. Et c'est ce qui m'a frappé quand, avec Michel, on a vu John Wimber qui avait ce souci d'être fidèle à la parole, mais en même temps qu'il y avait les œuvres qui l'accompagnaient, ce que Dieu a prouvé, ce qu'il est en train d'annoncer au niveau du royaume. C'est possible, c'est possible, c'est un aperçu hein, de ce que ça sera dans l'éternité. Mais c'est la fidélité uniquement à la parole et à l'évangile qui nous permettront de voir des choses puissantes sans que l'ennemi puisse s'immiscer à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi est toujours là. Je vous l'ai dit par mon témoignage, qu'en fait, il a la puissance qui est limitée, mais il l'utilise pour essayer de dévier les choses. Et pour l'évangile, ne dévions pas la portée de la parole de Dieu, de l'évangile. Pour ça, plus vous serez enracinés dans la parole, plus vous pourrez tenir. Nous sommes dans un temps où la tempête va être de plus en plus forte, parce qu'on est à la fin de la fin des temps. Et l'ennemi, il sait que c'est la fin. Vous savez, c'est un peu comme les bêtes qui, à la fin, ils se ressaisissent pour essayer, comme un dernier effort pour survivre. Eh bien, Satan essaie de survivre. Mais c'est nous qui allons être ébranlés si nous ne sommes pas appuyés sur la parole. Si nous ne sommes pas appuyés sur un tas d'autres choses, eh bien, nous ne verrons pas ce qui est écrit. Nous ne verrons pas ce que nous devons voir pour résister. Donc, soyons affermis sur la parole. Amen. Et soyons des prophètes. Des prophètes. Nous n'avons plus besoin de grands prophètes. Jésus a surpassé tous les prophètes, il est prophète par excellence. Et Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Donc, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Mais soyons tous des prophètes. Amen. Parce que Jésus, le grand prophète, il est dans le ciel. Il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. En tant que sacrificateur, il est médiateur, parce que nous sommes créés et Dieu est incréé. Et entre la créature et l'incréature, il faut un médiateur. Et il faut des sacrifices. Et c'est Jésus qui est ce sacrifice éternel. Donc nous passons par Jésus, le souverain sacrificateur, le souverain roi qui règne, aujourd'hui il règne, sauf qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous ses pieds, ce qui n'est pas le cas. Et il est souverain prophète, puisqu'il est lui-même le Fils de l'homme, qui est la parole incarnée, le Logos, sur l'évangile de Jean. Donc réjouissons-nous, et on verra dans la suite que le même schéma s'applique à l'Église. L'Église, c'est un sacerdoce royal. Donc nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs et nous sommes prophètes. Nous venons de le voir. Et tous les chrétiens sont prophètes. Amen. Donc accomplissons notre tâche de prophète fidèlement et nous verrons Dieu agir. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui ne change pas, Seigneur. Nous, nos opinions peuvent changer, mais ta parole ne change pas, parce que c'est toi qui parles. Que nous puissions être fidèles à ta parole. Seigneur, merci de ce que cette Église, tu la fortifies afin qu'elle ne dévie pas de cet évangile qui est le seul évangile qui peut sauver, Seigneur. Tous les autres évangiles, Seigneur, nous amènent dans des impasses. Seigneur, merci de nous garder fidèle à ta parole, et que nous puissions regarder à toi, Seigneur, pour te laisser agir par ton esprit dans chacune de nos vies. À toi toute la reconnaissance, au nom de Jésus. Amen.